Et j'aimerais bien regarder avec vous ce matin l'épître d'Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. J'aime beaucoup ce texte de Paul qui parle de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est un texte en fait qui est une prière. Et quelle belle prière pour parler d'une année qui s'achève, comme pour parler d'une année qui commencera bientôt différente pour vous. Et il faut dire que les épîtres de Paul sont truffées de prières. Elles sont, elles sont exceptionnelles et elles ont toujours joué un rôle important dans les églises chrétiennes. Alors j'espère qu'aujourd'hui, cette prière jouera un rôle important pour vous, qu'elle aura un message fort pour chacun de vous, vous les paroissiens, vous les membres de cette communauté, vous qui êtes de passage. Et je vous invite d'abord à la prière. Nous remettons ce temps d'écoute de sa parole dans les mains de notre Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ton Fils envoyé par amour pour nous. Merci pour ce Jésus lumière du monde qui vient nous éclairer dans nos obscurités. Alors, illumine toute notre vie, que ta parole éclaire nos esprits et que par ton esprit, nos cœurs restent ouverts et réceptifs à toi. Voilà, je vous demande d'être avec nous et d'ouvrir nos cœurs. Merci pour ta parole qui est vérité et qui éclaire nos chemins. Amen. Alors nous allons vraiment prier, je vous invite à prier pour que le micro reste allumé et correct, parce que j'arriverai jamais à parler au plus fort que les cigales ce matin. Alors je vous invite à écouter ce passage en Éphésiens 3, les versets 14 à 21. C'est pourquoi, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors Paul commence son chapitre 3 d'Éphésiens en voulant développer une grande idée. Il parle, si vous le relisez, le chapitre 3, de ce mystère qu'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qu'elle soit annoncée par le moyen qu'est l'Église. Il le fait en utilisant l'expression « c'est pourquoi » ou d'autres traductions mettent « à cause de cela ». Et il part dans son aparté qui va durer les 13 premiers versets. Et puis Paul va revenir vers l'essentiel de ce qu'il voulait dire en reprenant cette même expression au début de son texte « c'est pourquoi » ou « à cause de cela » comme je vous l'ai lu « c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père ». Alors quelle est cette chose qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous livre de plus ici? On comprend en tout cas que c'est important, parce qu'il se dit se mettre à genoux. C'est beau, et cela nous rappelle que les gestes ont aussi tout leur sens. Et la plupart des prières dans l'Ancien Testament étaient faites en fait debout. Par contre, les prières qu'on faisait à genoux étaient des prières très très intenses, des prières de supplication à Dieu, ou alors des prières de repentance. Et là, Paul dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. C'est une façon pour lui de mettre l'accent, la pression, d'attirer l'attention sur le contenu de ce qu'il va dire et qui est très important à ses yeux. Et quel est ce contenu important? Tout est introduit par ce verset 16. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Alors essayons de mieux comprendre ce contenu étape par étape en nous posant trois questions. Pourquoi cela est si important? Qu'est-ce que cela vient produire en nous et quel aspect pratique de tout cela? Alors pourquoi est-ce si important? La première observation qu'il faut poser, c'est de savoir à qui Paul adresse ce message. Alors à qui? On pourrait se dire que Paul est en train de faire de l'évangélisation, mais non, pas du tout. Il ne s'adresse pas à des païens qui ne savent rien de Dieu, mais en fait, il s'adresse à des chrétiens, aux membres des églises de la ville d'Éphèse en Turquie qui fait partie des églises que Paul a fondées. Paul s'adresse à des membres comme il s'adresserait à vous et à moi. Cette prière nous est donc aussi adressée. Et ce que nous savons de cette épître en particulier, c'est qu'au travers d'elle, Paul cherche à ce que l'église d'Éphèse pose un fondement dans sa réflexion théologique. Mais on pourrait aussi se demander, et à juste titre d'ailleurs, si les chrétiens d'Éphèse ne sont pas déjà fortifiés dans leur cœur par l'Esprit. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà conscience de l'immense amour de Dieu pour eux, révélé en Jésus-Christ? Et on pourrait se poser la question pour nous aussi. Est-ce que nous avons déjà conscience de cet immense amour de Dieu pour nous? Logiquement, on ne peut pas être chrétien si on ne le sait pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que Paul leur dit cela? Que vise-t-il exactement? Eh bien, Paul vise et prie pour que chaque chrétien fasse une profonde expérience spirituelle de l'amour de Dieu pour lui en Christ. Et si l'on comprend bien ce qu'il veut dire, ce n'est pas seulement que le chrétien sache que Dieu l'aime, qu'il en ait conscience, mais bien plus qu'il comprenne la profondeur de l'amour de Dieu pour lui, qu'il la connaisse réellement. Et il y a quelque chose là d'essentiel pour Paul qu'il souhaite, pas seulement aux chrétiens d'Éphésiens, mais pour tous les chrétiens. En fait, il y a ici, on pourrait dire, toute sa conception de la foi chrétienne, et qui repose sur quoi? Sur une compréhension assez réaliste de la façon dont nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Voyez, il y a des choses que nous savons, auxquelles nous croyons même des fois très fort, mais dont il est possible qu'on ne peut jamais en faire l'expérience dans son fort intérieur. Comme même je n'ai jamais fait l'expérience de ce qu'il est le plus important pour le chrétien, c'est-à-dire cette identification à Christ, croire en lui en tant que fils ou fille de Dieu et ressentir l'immense amour de Dieu pour soi. Car comme Paul l'a compris, la vie chrétienne, c'est ce constant va-et-vient entre ce que l'on croit et ce que l'on expérimente vraiment dans son être intérieur, dans son âme, au fond de soi. En d'autres termes, on peut savoir que Dieu nous aime, le tenir pour vrai, comme une vérité vraie, sans que cette vérité ne fasse profondément écho en nous, sans qu'elle nous touche réellement, sans qu'elle ne nous bouleverse en profondeur. Or, s'il y a bien quelque chose que vise le christianisme, c'est cette authenticité de ce qui est compris et de ce qui est vécu. C'est la cohérence en ce que l'on sait, ce que l'on croit et ce qu'on ressent et du coup ce que l'on vit. Et c'est d'ailleurs bien souvent ce qui est renvoyé aux chrétiens dans le monde. « Ah, vous dites croire en ceci, cela. Oh, vous avez une haute exigence d'être cohérent. Mais alors pourquoi se passe-t-il ceci ou cela dans vos églises, entre vos paroissiens, envers les autres, envers les étrangers ?» Et c'est bien là le problème, c'est bien là où le bât blesse. Il n'y a pas toujours équation en ce que nous disons, en ce que nous disons croire, et ce que nous vivons vraiment. Alors quand Paul nous invite à approfondir l'amour de Dieu d'une façon existentielle, il n'est pas en train de dire que nous sommes des hypocrites si nous prétendons l'aimer, mais qu'en fait nous n'arriverons pas réellement à le faire, non. Voyez, il n'est pas dans le jugement facile ici. Paul est en train de dire que le cœur de l'être humain est fait de telle sorte à ce qu'il est possible, oui, il est possible que nous croyions en quelque chose, que nous soyons sincères dans notre démarche, sans pour autant que cette chose dans laquelle nous croyons affecte réellement notre quotidien. Alors qu'est-ce que Paul veut pour les chrétiens ici? Eh bien qu'il développe une sensibilité nouvelle et vraie aux vérités de l'Évangile. C'est ce que veut dire par là être fortifié dans son être intérieur par le Saint-Esprit. C'est en être touché, transformé, encouragé, exhorté amené à être en équation avec le croire et le faire, entre le savoir et en faire l'expérience. Et dans quel but ? C'est ce que va nous expliquer Paul dans le reste de ce passage. C'est dans le but qu'il puisse saisir de nouveau, et encore, l'étendue de l'amour de Dieu pour eux. C'est d'ailleurs le message central de l'Évangile, et ce mot « saisir » est très fort. Ce n'est pas la même chose que de croire que nous utilisons dans notre vocabulaire au quotidien. Cela veut dire « s'emparer », s'y accrocher fermement, fortement, prendre pour soi ardemment. Paul veut aussi que nous prenions conscience de cette versalité de notre cœur, et spécifiquement en ce qui concerne l'amour de Dieu. Et il nous rappelle que c'est une chose de se savoir aimer, mais que c'est une autre de conjuguer cet amour à l'intérieur du soin intime, d'y fonder son être dessus, sa façon de vivre et de la saisir pleinement. Que ce soit une vraie ancre pour chacun, malgré le ballottement, on pourrait dire, des vagues de la vie. Un petit exemple, au siècle dernier, l'église anglicane a été marquée par un pasteur avec une forte personnalité. Il s'appelait Martin Lloyd Jones. Et il avait le verbe haut, disaient les gens. Et il raconte qu'il aimait provoquer ceux qui venaient chercher auprès de lui quelques conseils, en lui posant en général cette question. Il posait cette question envers eux. Mais alors, il disait, quand il venait prendre conseil, mais finalement, êtes-vous chrétien ? Leur disait-il. Oh, la plupart du temps, les gens étaient un peu perplexes. Ben oui, je suis chrétien, c'est pour ça que je viens vous voir. Et ils répondaient, ben oui, oui, en tout cas, je l'essaye. Je fais de mon mieux. Et il aimait leur répondre, ah, être chrétien, ce n'est pas faire de son mieux. Un chrétien est quelqu'un qui sait qu'il est justifié par grâce et qui ne dépend plus de ses bonnes actions pour être accepté par Dieu. Et il disait, soit on se sait aimer de Dieu inconditionnellement, soit on ne le sait pas, et donc on ne le vit pas. Alors c'est une façon de poser le problème de façon très radicale, mais la question est salutaire. Un des lieux où ce que nous croyons n'affecte pas toujours notre vie, et quand on passe par la souffrance, par les épreuves, par les maladies, combien de fois peut-on entendre une personne pourtant croyante remettre en question sa foi, remettre en question sa compréhension de Dieu et se demander si vraiment Dieu l'aime pour lui imposer une telle épreuve. Et il y a ici une interpellation qui nous est lancée. Avons-nous réellement tiré toutes les conséquences de ce que cela veut dire être absolument aimé par Dieu en Christ, totalement, entièrement ? Sommes-nous conscients de ce trésor que nous avons en notre possession ? Cet incroyable bienfait de Dieu. Est-ce que cette bonne nouvelle est en train de révolutionner notre vie, d'affecter notre fort intérieur, nos émotions? Et nous affecte-t-elle dans les épreuves, dans les choses difficiles, dans les relations qui nous sont pénibles? Change-t-elle réellement quelque chose dans la façon dont nous réagissons, dans la façon dont nous vivons, dans la façon dont nous servons Dieu même? Si c'est difficile. Quand on y pense, Paul est en train de prier pour les gens qui étaient dans des situations bien plus périlleuses que la nôtre. Ils pouvaient être confrontés à toutes sortes de dangers, comme des invasions, des guerres, des maladies, des persécutions. Et pourtant, la seule chose dont ils ont besoin, selon lui, et vraiment besoin, c'est qu'ils prennent conscience de la mesure de l'amour de Dieu pour eux. Et Paul se met à genoux pour prier cela pour eux, que la réalité de l'amour de Dieu vienne faire une différence dans leur vie. Et c'est aussi sa prière pour nous, que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu chaque jour, le connaître, l'expérimenter réellement. Et Paul nous invite par l'action du Saint-Esprit à voir et à voir plus profondément encore ce qui est important, ce qui est essentiel, l'amour vaste de Dieu, au point que Christ habite en nous. Et qu'est-ce que cette prise de conscience nouvelle va venir faire éclore en nous ? Qu'est-ce que cela produit quand on a cette certitude que Dieu nous aime ? Eh bien, Paul prie pour que notre être intérieur soit fortifié, sensibilisé par l'Esprit Saint. Cette idée d'être intérieur est très forte chez Paul. Paul n'est pas en train Juste de parler de la capacité de réflexion qu'a tout être humain, même ni de ses émotions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le comprend souvent aujourd'hui quand on parle d'être intérieur. Non, il est en train de parler de ce qui se passe au plus profond de nous et qui contrôle tout le reste. Ce en quoi nous plaçons nos espoirs, ce en quoi nous aspirons, ce en quoi nous tenons, ce qui affecte et détermine tout le reste de notre vie et affecte du coup notre façon de vivre et de gérer les événements. Et c'est justement là où le fait de savoir que Dieu nous aime doit faire une différence. Cela permet de prendre pour soi les affirmations sur Dieu et de voir la différence que cela produit dans notre contexte, dans notre vie de tous les jours, pour que cela nous porte, nous rassure. Comme se dire et dire « Dieu est bon », c'est à chacun de saisir cette bonté. Pensez à tout ce qui fait que Dieu est bon dans votre quotidien et chérissez-le. Oui, comptez les bienfaits de Dieu. Où Dieu est amour, sentez combien vous êtes aimé, qui que vous soyez. Vous arrivez à voir du coup la trace de Dieu dans votre vie, mais aussi de voir comment son amour vous permet de prodiguer de l'amour aux autres. Ou encore Dieu fait grâce. C'est se sentir privilégié d'être aimé de la sorte, touché et inspiré par toute forme de justice, de grâce. Dieu est saint. C'est être encouragé et non découragé par la justice, la droiture, la vérité. Toutes ces affirmations sont là pour nous impacter dans notre vie, pour nous fortifier. Le psalmiste dit toujours dans les psaumes « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». C'est de ça qu'il est question, de le goûter, de faire nôtre, de se l'approprier, de le saisir pleinement. Alors pour finir, quel autre aspect pratique? Qu'est-ce que Paul désire pour nous? Eh bien que Christ demeure dans notre cœur par la foi. Cela fait le lien avec cet Emmanuel venu à Noël, sacrifié pour nous à Pâques et la venue de l'Esprit à Pentecôte. Dieu veut demeurer en nous. En Jésus-Christ, il vient demeurer dans l'humanité. Les religions font dans la conformité extérieure, mais le christianisme dans la conformité intérieure. Christ habite en nous. Au travers du Saint-Esprit, Christ devient réel pour nous, en nous. Il veut réellement demeurer dans notre vie. Il faut arriver à le réaliser, le croire afin de puiser en lui pour notre quotidien. Quel autre désir de Paul pour nous? Eh bien aussi que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour. C'est savoir et sentir que Dieu est là, qui nous façonne, qui sourit en nous regardant, que son amour et rien d'autre est capable de nous combler. Et Paul veut aussi que vous soyez remplis dans la mesure de toute la plénitude de Dieu. C'est quoi la plénitude? Eh bien la plénitude que Dieu propose, c'est d'ailleurs l'inverse de l'angoisse, c'est la confiance retrouvée. Ajoutez à cela une dose de paix qui dépasse toute compréhension, avec une pincée de joie et d'espérance. Vous avez là un contentement en tout instant, prodigieux, plénitude de Dieu. Alors comment rassembler tout ce que je viens de dire? Eh bien dans l'ensemble de la requête de Paul, deux mots ressortent. Comprendre et connaître. Comprendre. On le réalise pas, mais finalement c'est un terme assez compliqué, assez complexe. Comprendre englobe le fait d'incorporer, d'intégrer, de déchiffrer, de concevoir, de saisir, voire même de sentir. En grec, c'est l'un des mots les plus riches qui soient. Il peut aussi faire référence à l'action d'assaillir quelqu'un et de le mettre à terre et lui enlever tout ce qu'il possède. Les Grecs l'utilisaient par exemple ce terme pour décrire la mise à sac d'une ville. On comprend une ville en la mettant à sac, en reprenant pour soi toutes ses richesses qu'elle contient. La plupart des commentateurs disent que Paul utilise intentionnellement ce terme pour que nous comprenions justement de façon imagée ce à quoi nous sommes appelés spirituellement. Mettre à sac la Bible, nous emparer de son contenu et la faire nôtre, nous emparer de ce Dieu qui nous aime. Ce n'est pas seulement verser dans l'intellectualisme ou le théologiquement correct, ou inversement se réfugier dans une posture mystique, contemplative ou alors charismatique, Laissez un peu mener tout cela de front, ensemble. Pas seulement étudier, mais aussi écouter pour comprendre, pour expérimenter, pour le vivre. Et puis à cet autre terme, celui de connaître. Comment connaître Dieu intimement? Un des lieux privilégiés pour le connaître est celui de la prière. Car un des buts de la prière, c'est ce de s'ouvrir constamment à l'inattendu de Dieu, à ce que Dieu se révèle à vous de façon spéciale, nouvelle, plus profonde, afin de voir qui il est, ce qu'il fait, de réaliser à nouveau tout son amour pour nous. Et ces prières peuvent être faites à tout moment, n'importe quand. Je me souviens d'ailleurs d'une prière toute simple que j'ai faite en me promenant sur les plages du Nord il y a quelques étés. Alors, les grandes étendues de ces plages du Nord sont incroyables, on ne voit pas la fin. J'avais besoin de réconfort, j'avais besoin d'une parole de Dieu. Ah, moi je voulais des solutions, des réponses. Mais Dieu m'a répondu en me disant quelque chose de tout spécial. Mon amour pour toi s'étend comme cet océan vaste et à perte de vue. Voyez, son amour nous comble et c'est son amour dont nous avons besoin d'entendre, de savoir qu'il est là. Priez pour que son amour devienne et redevienne une réalité dans nos vies quotidiennes, pour que la confiance en lui soit une façon de vivre, pour en faire réellement l'expérience dans nos vies. C'est toujours nécessaire afin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que nous soyons remplis de cette plénitude de Dieu, afin que le Seigneur Jésus devienne pour chacun une vraie réalité. Alors que conclure ? Souvent dans les psaumes, l'auteur se pose des questions. Pourquoi fais-tu cela, mon cœur ? Ou pourquoi n'es-tu pas comme cela ? Le psalmiste cherche à comprendre. Il cherche jusqu'à ce qu'il change et vive ce changement. Il recherche l'expérience intérieure par la prière, par l'écoute de Dieu, le dialogue avec son Dieu, mais la louange aussi et la méditation. Pourquoi ? Pour être fortifié et transformé. C'est pourquoi je vous invite vous aussi à faire comme ce psalmiste, à venir toujours à Dieu. Vous pouvez venir avec vos pourquoi, mais c'est les comment que le Seigneur va répondre. Comment ? Sachez que je vous aime pleinement. Et qu'en Jésus-Christ, vous avez tout mon amour. Il a été donné pour vous, pour chacun de vous. Alors que l'Esprit nous transforme pour que nous comprenions ce que cela veut dire dans nos vies, que nous puissions connaître, réellement faire l'expérience de cet amour de Dieu pour nous dans nos vies. L'amour de Dieu est large comment ? Large comme une rivière en crue, ou large comme un océan à perte de vue. Long comment ? Il est long dès maintenant et pour toute l'éternité. Il est haut comment ? De Dieu à nous et en permanence. Il est profond comment ? Il est profond point qu'il s'est donné pour nous, à nous, pour habiter en nous. Alors soyons dans la reconnaissance et soyons fortifiés. Nous sommes aimés par un Dieu merveilleux. Soyons ce peuple qui compte ses bienfaits envers nous, heureux de se savoir aimé si profondément, si largement, si haut, si profondément. Oui, offrons en retour à Dieu le spectacle de nos vies transformées, pleinement confiantes de cet amour pour nous, avec un sens relumé pour notre mission pour ce monde. Amen. Et avant la petite musique, je voulais partager avec vous des petits signets qui sont faits pour vous. Alors c'est compte les bienfaits, c'est pour nous rappeler combien le Seigneur est bon. Il nous aime, et puis après il y a tous ces bienfaits en plus qu'il nous donne. Alors à la fin du culte, n'oubliez pas chacun d'en prendre un, chacun pour vous. Compte ses bienfaits en mémoire de tout ce qu'il fait pour nous. Gardez-le près de vous. Thank you.